Chapitre 21. Hélène. Pendant le déjeuner, Mariette parlait de ses oiseaux en remerciant encore Bélinde de les lui avoir procurés. Lady Delacour regardait ses oiseaux. « Jamais, dit-elle, je n'oublierai l'aimable attention d'Hélène dans cette occasion. Pendant son séjour ici, elle a gagné ma tendresse, mais vous savez les raisons qui m'ont forcée à l'éloigner de moi. » « Je suis sûre qu'à présent, répondit Bélinde, loin de vous gêner, sa société vous charmerait, ainsi que Lord de la Cour, qu'il aime beaucoup. »« Oh, ma chère !» s'écria Lady de la Cour, « vous oubliez ma position. Qui peut encore m'être agréable ? La cloche fatale a sonné pour moi, ma tombe est entr'ouverte. Chaque jour, ma vie est un miracle qui ne peut se prolonger. Si vous saviez combien mes nuits sont cruelles !» Mais laissons ce triste sujet de conversation. Quel est ce manuscrit? C'est un petit journal de Charles Percival qu'il envoie à Hélène. Lady de la Cour le prit. Je voudrais, dit-elle, revoir ma fille, mais je n'en ai pas le courage. Vous savez que Milord cherche une maison de campagne, alors il me sera impossible de l'emmener. C'est donc à présent, peut-être, la dernière occasion que j'aurai de l'embrasser. « Je veux vous contenter. Allez la chercher, elle restera ici quelques jours. » Lady Boucher vous conduira à la pension de Miss Résumont dans Throne Street. J'aimerais autant être au milieu d'une volière que parmi une bande de jeunes filles. Je ne suis réellement pas en état d'y aller. Je vais me jeter sur ce canapé et lire le journal. Je doute cependant qu'il puisse m'intéresser. » Bélinde profita avec joie de la permission que lui donnait son amie et elle partit aussitôt avec Lady Boucher pour Sloane Street. Lady Boucher était vive, impatiente et babillarde. Elle expliqua donc longuement à Bélinde qu'elle voulait aller à une vente ce matin même, que tout ce qu'elle craignait était de la manquer, et elle la pria 100 fois de presser beaucoup Miss de la Cour. Ensuite, elle s'impatienta contre ses chevaux, son cocher et son laquais. Enfin, arrivée chez Miss Résumont, une petite charrette couverte, arrêtée devant la porte et qu'il fallut déranger, la fille s'écriait plusieurs fois « Je manquerai ma vente ! En grâce, ne laissez pas à Mille de la Cour le temps même de s'habiller. Ramenez-la tout de suite, je vous en supplie !» Bélinde promit de n'être qu'une minute. La porte de la pension était ouverte. Un domestique aidait un vieillard à retirer de la charrette quelques pots de fleurs. Dans la salle, tous les enfants s'empressaient autour du vieillard et arrangeaient leurs pots de fleurs avec tant de bruit que Miss Portman eut d'abord de la peine à faire entendre son nom. « C'est la vôtre! C'est la mienne! Qu'elle est belle! Qu'elle sent bon! Le grand géranium rose pour Miss Jefferson! Le blanc de Provence pour Miss Adderley! « Non, en vérité !»« Miss Pocock, répondit le vieillard, le blanc de Provence est pour Miss de la Cour. »« Silence, silence, mesdemoiselles !» s'écria une femme en français. Et la petite troupe se tut aussitôt en fixant la porte. Dès qu'Hélène eut aperçu Miss Portman, elle courut à elle pour l'embrasser et, en se précipitant, elle renversa son pot de fleurs. Lady Boucher fait ses compliments à Miss Résumont, dit un domestique. Elle la prie de l'excuser si elle ne descend pas de voiture, mais elle a une affaire indispensable qui l'empêche de s'arrêter. Elle demande d'envoyer Miss de la Cour sans toilette. Hélène était loin de penser à s'habiller. Elle était si contente de voir Miss Portman et de savoir que sa mère la désirait, qu'à peine elle donna le temps à Miss Résumont de lui nouer son chapeau de paille. Hélène courut à la voiture, mais en rencontrant le vieillard, elle s'arrêta. « Mon ami, je ne vous ai pas oublié, » lui dit-elle. « En vérité, nous n'avons pas le temps de penser à ce vieillard, » cria Lady Boucher en la tirant dans la voiture. « Chère Miss Portman, de grâce, parlez pour moi, » demanda Hélène d'un ton suppliant, « car il faut que je le paie et que je lui parle. » Bélinde dit au vieillard de venir chez Lady de la Cour, et l'on se remit en route à la satisfaction de tous. Arrivée dans Berkeley Square, Mariette vint dire que Milady venait de se coucher. Bélinde donna à Hélène le manuscrit de Charles Percival. « 13 pages !» s'écria-t-elle. « Comme il est bon d'avoir tant écrit pour moi !»« Elle se mit à les lire et les avait presque finies quand sa mère se réveilla. Lady de la course, reculant, voyant Hélène courir au-devant d'elle, en se ressouvenant du mal qu'elle lui avait fait un jour en l'embrassant. Hélène en parut plus affectée que surprise. Elle baisa la main de sa mère et se remit à lire. « Ce manuscrit vous amuse donc bien ?» lui demanda Lady de la cour, « puisqu'il vous empêche de me voir et de me parler. » « Maman, j'essayais de lire, vous croyant en colère contre moi. »« Qui peut vous donner cette idée ?» dit Lady de la cour en souriant. « Ah, vous souriez, » dit Hélène. « Je vois que vous n'êtes pas fâchée, chère maman. Je n'ai jamais été si heureuse de ma vie. Vous ne m'avez jamais regardée avec autant de bonté et de tendresse. » « Mon enfant, il ne faut pas toujours juger sur l'apparence. Il est possible de sentir plus qu'on exprime par ses regards. Mais je vous prie, Hélène, vous qui êtes si bonne physionomiste, dites-moi si vous avez vu dans mes yeux que j'étais mourante. » Hélène se mit à rire et répéta « Mourante ? Oh non, maman ! Est-ce parce que j'ai beaucoup de couleurs ? Ce n'est pas pour cela, maman !» « Vous voyez que j'ai du rouge. Vous apercevez quelques différences entre le teint de Miss Portman et le mien. En honneur, vous observez bien, et il est quelquefois dangereux d'avoir près de soi des personnes aussi fines. » « J'espère, maman, dit Hélène, que vous ne pensez pas que je veuille jamais savoir ce que vous voulez que j'ignore. » « Je ne vous comprends pas, ma chère, s'écria Lady de la cour en se levant vivement et en fixant sa fille. » Hélène rougit, mais elle répéta, avec une fermeté qui surprit même Belinda, mot à mot ce qu'elle venait de dire. « L'entendez-vous, Miss Portman ? » dit Lady de la cour. « Il me semble qu'elle exprime, dit Belinda, un très bon sentiment. » « Sans doute, dit Lady de la cour, et c'est au-dessus d'un enfant de son âge. Avez-vous lu les mille et une nuits, Hélène ? Vous rappelez-vous l'histoire de Zobéide et de l'extrême discrétion qu'on exige à d'elle ? Oui, maman. Eh bien, c'est aux mêmes conditions que je vous permets de rester avec moi quelques jours. Je ferai tout ce que vous voudrez, maman, dit Hélène avec joie. Le vieux jardinier, à qui Miss Portman avait donné rendez-vous, vint parler à Hélène. Lady de la cour demanda ce qu'il voulait. Hélène, aussitôt, qui ignorait la part que sa mère et la tante de Belinda avaient dans l'histoire de cet homme, la raconta avec feu, disant qu'il avait été trompé et chassé par de belles dames, que Lady Anne Percival et sa tante Margaretha étaient venues au secours de ce pauvre homme et l'avaient placé jardinier à Twickenham, qu'il venait vendre des fleurs aux pensionnaires de Mistress Dumont et qu'elle s'était chargée de le payer lorsque l'arrivée de Miss Portman l'en avait empêché. Lady de la cour avait entendu cette histoire avec embarras et impatience. Elle demanda à Hélène le nom des belles dames qui avaient trompé ce jardinier. « Je l'ignore, maman. Dites-moi la vérité. L'avez-vous jamais demandé à Lady Anne ou à votre tante Margaretha ? Regardez-moi, ne vous en ont-elles jamais parlé ? J'ai fait la question à Lady Anne. Elle m'a répondu qu'il m'était inutile de le savoir. » « Je dois beaucoup de remerciements à Lady Anne, » s'écria Lady de la cour. « Je vois qu'elle n'a point essayé de me nuire auprès de ma fille. Je suis la belle dame, Hélène, qui a causé le malheur de cet homme. Je rivalisais avec Mistress Luttridge, je fus honteuse de ma folie. La restitution est la meilleure preuve de repentir. Allez, chère Hélène, payez cet homme et dites-lui de revenir demain. Je verrai ce que je pourrai faire pour lui. » Lord de la cour envoya à sa femme une belle bague de diamants qu'il avait autrefois achetée pour Miss Luttridge. Le soir, lorsqu'il demanda à Milady si elle en était contente, elle lui dit qu'elle la trouvait belle, mais qu'elle espérait qu'elle n'avait point été achetée pour elle. Il lui répondit que non, mais qu'il lui demandait de la porter. Mais que son goût pour la parure était passé, que s'il voulait, il pourrait lui faire un plus grand plaisir. Lord de la cour assura qu'il serait heureux toute sa vie de voler au-devant de ses désirs. Elle lui demanda alors de faire une pension au vieillard qu'elle avait traité injustement. Elle raconta son histoire avec Mistress Luttridge et Lord de la cour fit aussitôt le billet pour le jardinier. En parlant à ce vieillard, Lady de la cour pensa que la maison qu'il habitait à Twickenham pourrait lui convenir. Lord de la Cour, enchanté, la loua aussitôt, et, comme on le pense bien, garda le vieux jardinier. Le sort de Lady de la Cour allait bientôt être décidé. Son courage augmentait, en même temps que sa frayeur de voir découvrir son secret. « Si je conserve la vie, dit-elle, ma ferme intention est de changer absolument de conduite. Je fuirai la dissipation, je romprai avec les connaissances qui sont indignes de moi, je vivrai avec ma Belinde et la famille Percival, et le rétablissement de ma santé morale pourra s'attribuer à mon séjour à Oakley Park. Mais je serais inconsolable que le monde pût croire que je le quitte par force. Une retraite volontaire est honorable, une solitude forcée est humiliante. Il me serait impossible d'entendre dire « Lady de la Cour est prude parce qu'elle ne peut plus être coquette. » Devenir le sujet des épigrammes et des caricatures serait donner une vengeance trop aisée à Mistress Luttridge. Quoique Belinde ne partageât pas ces ridicules craintes de Lady de la Cour, elle essaya de la rassurer. « Je n'ai point oublié, répondit Milady, ma chère, les preuves que Lord de la Cour m'a données de son cœur. Mais je crains son peu d'adresse à cacher ce qu'il veut taire et le sujet de ma frayeur. Mariette m'a appris ce matin que Mistress Luttridge était venue d'Harrogate à Rantipole et que, n'y trouvant pas Lord de la Cour, elle était revenue à la ville. Vous sentez bien que le motif de son retour ne peut être que sa haine contre moi, et j'ai tout à craindre de sa curiosité, de sa perfide adresse et de sa jalousie. Mariette est au-dessus de toute séduction. Quant à ce charlatan, la crainte de n'être point payé lui a sans doute fait garder le silence. Je n'ai point d'argent à lui donner. J'ai remis à Mistress France le peu que j'avais. À 3 heures, je dois le voir pour la dernière fois dans le boudoir mystérieux. » Les craintes de Lady de la Cour sur la maligne curiosité de Mistress Luttridge n'étaient point entièrement sans fondement. Champfort travaillait pour elle et pour lui. La mémorable scène de la clé du boudoir était encore présente à son esprit. Il espérait, en découvrant le mystère, obtenir à la fois un nouveau pouvoir sur Lord de la Cour et des présents de Mistress Luttridge. Quoique sorti de la maison, il y avait conservé des agents. La stupide servante n'était point insensible et Champfort avait cru de son intérêt de lui faire la cour. On sait que les grands événements ont souvent de petites causes. Avec l'apparence de la bêtise, la digne maîtresse de l'intrigant valet de chambre cachait l'oreille la plus fine et l'œil perçant d'un espion. Longtemps, elle écouta et regarda en vain, et tout ce qu'elle put rapporter fut que le boudoir était toujours fermé et que Mariette seule y entrait. Le jour indiqué pour la dernière entrevue entre Milady et le chirurgien, Mariette, selon sa coutume, l'enferma dans le boudoir et fut chercher sa maîtresse. L'heure à laquelle il était attendu étant passée, Lady de la Cour était dans sa chambre à coucher et dormait si bien que Mariette ne voulut point l'éveiller. En redescendant, elle trouva la servante sur l'escalier. « Milady dort, lui dit-elle, ainsi prenez garde de faire du bruit. » La chambre de cette fille était précisément au-dessous du boudoir. En prêtant l'oreille avec attention, elle entendit marcher au-dessus d'elle. Elle prit une tasse de bouillon et, sous ce prétexte, entra dans l'appartement de Milady. En la voyant endormie, elle fut très étonnée de trouver que Mariette lui avait dit vrai. Elle prêta l'oreille, entendit tousser dans le boudoir et crut reconnaître la voix d'un homme. Elle se coucha par terre pour voir si, au travers de la porte, elle n'apercevrait rien. Comme elle était dans cette attitude, Milady fit un mouvement et le livre qui était sur son lit tomba par terre. Le bruit ne l'éveilla cependant pas. Elle dormait d'un sommeil profond, c'était l'effet du laudanum. Le bruit avait été trop fort pour être seulement causé par un livre. La servante regarda et aperçut une clé. S'imaginant que c'était celle du boudoir, elle se résolut, à tout hasard, de l'essayer, et elle la mettait doucement dans la serrure, lorsqu'elle fut tout à coup arrêtée par une voix qui lui cria « Qui vous a permis d'ouvrir cette porte ?» Elle se retourna et vit Hélène. « Bon Dieu, Miss, prenez garde d'éveiller madame !»« Maman, vous a-t-elle envoyée dans ce cabinet ?» répéta Hélène. « Non, je voulais seulement donner de l'air à la chambre. Je... » Hélène, sans lui répondre et sans l'écouter davantage, prit la clé et alla s'asseoir auprès du lit de sa mère, attendant son réveil pour lui raconter ce qui venait de se passer. Malgré l'ingénuité de cet aimable enfant, la mère avait bien jugé sa pénétration. Hélène avait bien remarqué que Mariette seule entrait dans le boudoir. Mais, réprimant toute curiosité, elle gardait fidèlement sa promesse d'imiter Zobéide, quoique la servante, en l'habillant, eût fait tout son possible pour exciter sa curiosité au sujet du boudoir. Elle ne fit que déplaire à Hélène, et ce fut le soupçon de cette coupable curiosité qui la fit suivre par Miss de la Cour. Lady de la Cour ouvrit les yeux. « Hélène, s'écria-t-elle, comment avez-vous cette clé ?»« Oh, ma mère, ne me soupçonnez pas !» Elle raconta alors tout ce qui venait de se passer. « Ma chère enfant, vous m'avez rendu un service essentiel. Vous n'en connaissez pas l'importance, au moins celle que j'y attache. Mais surtout, ce qui cause ma satisfaction, c'est que vous êtes digne de mon estime et de ma tendresse. » Mariette entra alors et parla bas à sa maîtresse. « Vous pouvez parler devant mon Hélène, » dit Lady de la Cour en se levant. « Elle mérite toute ma confiance. » Elle passa dans son boudoir, paya le chirurgien et revint trouver sa fille. « Je vois que vous n'avez aucune curiosité. Vous aurez tout le caractère de votre mère. Puissiez-vous n'avoir jamais ses défauts et ne jamais éprouver ses malheurs. Je ne vous parle plus comme à un enfant, Hélène. Votre raison est au-dessus de votre âge. » Rappelez-vous toute votre vie ce que je vais vous dire. Vous possédez des talents, de la beauté, de la fortune. Vous serez admiré, entouré, flatté comme je l'ai été. Mais ne passez pas votre vie, comme j'ai passé la mienne, à chercher la louange des fous. Si j'eusse employé la moitié des avantages que je possède, comme j'espère que vous le ferez, j'aurais été l'ornement de mon sexe, j'aurais été une Lady Percival. » Ici, la voix de Lady de la Cour fut extrêmement émue. Choisissez bien vos amis, ma chère fille. Mon malheur et ma folie viennent de m'être liés dans ma jeunesse avec une femme inconséquente qui m'a entraînée dans toutes sortes d'égarements. Vous êtes trop jeune pour entendre les particularités de mon histoire. Ma meilleure amie, Miss Portman, vous la dira. C'est à ses soins que je vous confierai lorsque je mourrai. « Oh, ma mère, pourquoi donc toujours parler de mort ?» Elle jeta ses bras autour du cou de sa mère. « Doucement, mon amour, lui dit-elle, et elle saisit ce moment pour lui apprendre la cause de tous ses maux. Hélène parut excessivement affligée. « J'aurais voulu, ma chère, lui dit sa mère avec calme, vous épargner le chagrin que je vous cause. Je vous ai donné si peu de plaisir dans ma vie, qu'il est injuste à moi de vous faire tant de peine au moment où... Demain, je partirai pour Twickenham et je vous laisserai avec votre tante Margaretha. Si je meurs, Belinda vous emmènera à Oakley Park. Ne vous livrez pas alors à votre douleur. Si vous m'eussiez montré moins de tendresse, vous verseriez moins de larmes et vous m'auriez épargné. Oh, ma chère et tendre mère, interrompit Hélène en se jetant à ses pieds, ne me séparez point de vous. Tout ce que je désire est de ne point vous quitter. Je serai mille fois plus inquiète en étant loin de ma mère. » Cédant aux prières de sa fille, Lady de la Cour consentit à l'emmener à Twickenham. Le reste du jour fut employé aux préparatifs du départ. La perfide servante fut renvoyée. Mariette seule suivit sa maîtresse. Lord de la Cour resta à la ville afin de n'exciter en aucune façon la curiosité du public. Naturellement bon et sensible, il avait été touché par la tendresse que sa femme lui avait montrée. Son agitation fut extrême durant toute cette journée qu'il pensait pouvoir être la dernière qu'il passait avec sa femme. Lady de la Cour, au contraire, fut calme. Son courage semblait s'accroître avec le besoin qu'elle pouvait en avoir. Le lendemain matin, lorsque la voiture fut prête, elle remit au Lord de la Cour un papier contenant ses dernières volontés. Il contenait quelques legs à ses domestiques, à Mariette, et un don à Belinda du secrétaire dans lequel elle conservait les lettres de Clarence. « Ma fille, disait alors Lady de la Cour, est assez riche pour que je puisse disposer des bijoux qui sont dans ce secrétaire. Si Miss Portman fait un mariage riche, elle les portera pour l'amour de moi. Sinon, je la prie de les vendre sans scrupule. » Lord de la Cour prit ce papier avec beaucoup d'émotion en l'assurant qu'elle serait obéie si... Il n'en put dire davantage. Adieu, milord, conservez votre courage, j'espère vous revoir bientôt.